Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les dangers du sommeil spirituel dans Juges chapitre 16, verset 13. Delila dit à Samson : Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit : Tu n'as qu'à tisser 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle dit : Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit : Comment peux-tu dire : Je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit : Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire : Montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors : Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit : Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain et ils tournaient la meule dans la prison. Nous savons que nous devons constamment veiller sur notre vie spirituelle parce que nous sommes tous en danger de tomber dans un sommeil spirituel. C'est un danger qui guette tout chrétien. À partir du moment où on a commencé la marche, nous devons rester tout le temps éveillés. Jésus l'a dit : veillez et priez, restez éveillés dans la foi. Et on connaît malheureusement dans notre entourage des chrétiens qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais qui n'ont pas veillé sur leur chemin et qui se sont endormis. Alors, nous pouvons encore réagir. Ce n'est pas parce que nous sommes tombés dans un sommeil que tout est perdu, que tout est terminé. Mais quand les symptômes du sommeil se manifestent, c'est à nous de réagir et de ne pas laisser la léthargie nous éloigner du Seigneur. Le premier exemple que nous trouvons dans la parole est celui de Samson. Samson est bien connu, il signifie en hébreu « petit soleil ». Son nom, « petit soleil » en français. Ça signifie qu'il était appelé à briller. Et nous devons être des lumières dans ce monde. C'est Jésus qui nous l'a demandé. Nous devons être des petits soleils aussi. Il était appelé à briller, mais ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que ce sont plutôt les ténèbres qui ont dominé. Il était l'enfant du miracle. Si vous connaissez son histoire, si on remonte un petit peu en arrière, sa mère était stérile. Elle ne pouvait donc pas avoir d'enfant. Et elle aurait pu réagir de manière fataliste en disant : ben voilà, c'est tombé sur moi, je suis stérile, donc on ne pourra jamais avoir d'enfant. La vie est ainsi, c'est mon lot dans la vie. Elle aurait pu s'arrêter là. Mais elle avait cette croyance en Dieu, que Dieu est toujours le Dieu du miracle dans les situations les plus compliquées. Et elle s'attendait à Dieu. Et effectivement, le Seigneur est intervenu pour qu'elle puisse avoir un enfant. Il y a un ange de l'Éternel qui est venu. Et l'ange lui a fait cette promesse : tu auras un enfant, mais il sera consacré à l'Éternel. Et c'est ce qui s'est passé pour Samson. Consacré à l'Éternel dès sa naissance, donc, elle avait cette consigne de ne pas lui couper les cheveux. Ça, c'était la particularité de Samson, puisque sa consécration était liée à ses cheveux. Et donc, elle n'a pas rasé ses cheveux, et c'était le gage de sa force. Donc, Samson, dès son enfance, était appelé à délivrer Israël, à être un vaillant héros pour Dieu. Et la femme a reçu cette parole de l'ange comme une parole de Dieu, elle a cru. Et frères et sœurs, quand on reçoit une parole, il nous faut y ajouter la foi. La foi rend vivante la parole de Dieu dans nos cœurs. Nous devons croire ce que Dieu dit. Elle a cru et elle a vu le miracle de Dieu s'accomplir. Samson a donc grandi dans une famille de croyants. Et en grandissant, l'Esprit de Dieu a commencé à agiter Samson et à l'utiliser de manière surnaturelle. Et dans les combats, il était puissant. Et nous, aujourd'hui, qui sommes chrétiens, nous avons besoin d'être visités par l'Esprit de Dieu pour les combats spirituels. Samson était rempli du Saint-Esprit pour accomplir ses exploits. Notre force ne vient pas de nous, et nous devons même nous méfier de notre propre force humaine, parce que ce n'est pas avec cette force-là que nous devons aller au combat, mais de recevoir la force d'en haut pour les combats spirituels. Alors Samson avait bien des qualités, il était vaillant, il remportait de grandes victoires contre les Philistins, c'est bien, mais il avait une faille dans sa vie. Il a un problème qu'il n'a jamais réglé, c'est un petit problème personnel, mais ce problème a pris une place importante. Et quand on ne traite pas les problèmes, ben, ils finissent par grandir et prendre racine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il avait une facilité à aimer les femmes. Il aimait de femme en femme. La première femme qu'il a aimée était d'ailleurs du peuple du Philistin, qui était des ennemis du peuple de Dieu. Alors, quand il en a parlé à ses parents, il a dit qu'il aimait cette femme. Ils l'ont dissuadé. Mais Samson, ce sont des ennemis du peuple de Dieu, les Philistins. Et pourtant, Samson est resté sur son choix. Il a dit, prends-la moi pour moi, parce qu'elle me plaît. Ça veut dire que Samson se laissait uniquement diriger par ses instincts naturels. Il était croyant, mais il ne cherchait pas la volonté de Dieu. Il cherchait ce qui lui plaisait. Elle me plaît. Qu'est-ce qui me plaît? Et nous, chrétiens, nous devons chercher la volonté de Dieu et non pas faire ce qui nous plaît en premier, mais chercher est-ce que Dieu est d'accord. Donc, il ne s'occupe clairement pas de la volonté de Dieu. Il pense que si ça lui plaît, ben, c'est que Dieu l'a mis sur sa route et que c'est la volonté de Dieu, donc il y va. Et il va payer les conséquences de ses mauvais choix. Terrible histoire, donc il va se marier avec cette première femme. Et alors qu'il va retourner dans sa famille pour voir ses parents, comme il y avait eu une dispute entre Samson et des Philistins, le père de sa femme a donné la femme de Samson à un autre. Et quand il revient, quelque temps après, il se rend compte que sa femme n'est plus sa femme. Et le fait d'avoir désobéi à Dieu, eh bien, il se retrouve dans les complications. Ça commence, ça tourne mal avec la première femme qu'il a aimée. Entre-temps, Samson développe ses qualités spirituelles pour le combat. Il arrive à de grands exploits. Il arrive à déchirer un lion des deux mains. Il a une force surnaturelle que Dieu lui donne. Il arrive, avec une mâchardoine, à tuer 1000 Philistins. Il arrive à porter les portes d'une ville de sa propre puissance, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Mais ce qui est curieux chez Samson, c'est que autant il développe sa force physique, autant il est faible sur le plan moral. Il avait une faiblesse, on en a parlé, les femmes. Eh bien, ça va replonger, il va aimer une deuxième femme, toujours chez les Philistins. Donc, il ne prend même pas des leçons du passé en se disant « j'ai fait une erreur, je ne vais pas recommencer ». Il reprend le même chemin. C'est une histoire sans lendemain, à nouveau un échec. Et puis, il va aimer une troisième femme, c'est celle-ci dont nous avons lu dans Juges 16, qui s'appelle Delila, qui signifie « coquette ». Toujours l'attirance pour les femmes, toujours l'attirance physique. C'est encore une femme du peuple des Philistins. Il désobéit encore à Dieu. Il ne le sait pas, mais cette fois-ci, cette femme va causer sa perte. Samson avait beaucoup reçu de Dieu. Il avait accompli des exploits pour le Seigneur, et ça, c'est très bien. Donc, il savait que Dieu est puissant, que Dieu existe. Il avait ce côté tourné vers Dieu. Mais il n'a pas veillé sur son âme. Il avait pu triompher de 1000 Philistins, on l'a dit tout à l'heure, avec une seule mâchoire, mais c'est par une seule femme qu'il va tomber. Il va être vaincu. Il va être faible parce qu'il avait cette faille qu'il n'a jamais traitée. Il était laxiste sur le plan moral, il entretenait des pensées de femme en femme et cela a causé sa perte. Les Philistins, qui voulaient toujours neutraliser Samson, ne savaient pas comment s'y prendre, alors ils ont cherché par sa femme Delila comment on pouvait venir à bout. Et comme elle était du peuple des Philistins, elle a été sensible au prince des Philistins qui lui donnait de l'argent en disant « flatte-le et découvre quel est son secret pour que nous puissions le lier ». Alors elle a essayé une première fois, Samson lui a dit « Eh bien, si on me lie avec 7 cordes fraîches, je serai aussi faible que n'importe quel homme ». Et puis, il s'est délié. Il a dit « Si on me lie avec 7 cordes neuves, je serai comme les autres hommes ». Et puis, on l'a lié de 7 cordes neuves et il s'est délié. « Si on tisse mes 7 tresses sur un métier à tisser, je serai aussi faible que les hommes, les autres hommes ». Et puis, il s'est à nouveau délié. Mais comme elle revenait chaque jour, et c'est là où on voit l'insistance de l'ennemi, car le diable ne nous laissera jamais tranquilles. 1 Pierre 5,8 nous dit « Soyez sobres, veillez », où ça veut dire « Tenez-vous éveillés, ne tombez pas dans le sommeil spirituel. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera », ou une autre version, « cherchant quelqu'un qui se laissera dévorer ». Et comme Samson n'a pas veillé, il s'est laissé dévorer. Il a laissé l'ennemi trouver un accès à son cœur. Donc il a fini par craquer. Il a révélé son secret à sa femme Delila. Il lui a ouvert son cœur. Et Delila l'a endormi sur ses genoux. Mais voyez, ce sommeil physique, c'est bien l'image d'un sommeil spirituel. Il avait lâché les conseils, la main de Dieu, les conseils de Dieu. Il ne prenait pas au sérieux les conseils de ses parents qui lui disaient « Non, Samson, il te faut trouver une femme parmi le peuple de Dieu. Ne va pas chercher chez les Philistins. » Il n'écoutait pas la parole de Dieu qui donnait des conseils pour le reprendre. Et finalement, il s'est laissé endormir sur les genoux de Delila. Et quand nous ne veillons pas, frères et sœurs, à un moment donné, nous tombons dans le sommeil spirituel et nous nous endormons. Et si nous tombons dans le sommeil spirituel, nous serons facilement vaincus, comme Samson a été vaincu par les Philistins, parce qu'il n'avait plus la force de répondre. On lui a enlevé les 7 tresses. Alors, quand il s'est réveillé, il pensait « je vais pouvoir m'en sortir comme les autres fois ». Il était optimiste. Mais Juges 16, 20 dit « il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui ». Samson avait oublié que sa force ne dépendait pas de lui, elle dépendait de Dieu. Voilà un croyant qui a périclité, qui a connu des sommets avec Dieu, mais qui n'a pas veillé sur son âme et qui a plongé spirituellement. Les conséquences du sommeil sont tragiques. Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite? Ils ont pris Samson, donc il n'a pas pu se dégager, contrairement à ce qu'il croyait. Ils lui ont crevé les yeux qui étaient pour lui une occasion de chute, puisque à chaque fois, il se laissait séduire. Eh bien, il a perdu la vue physique, mais en même temps, il avait perdu la vue spirituelle. Et puis, il est enchaîné comme un esclave dans la prison. Il va tourner la meule. Et Jésus dit ceci dans Jean 8, 34. « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est là l'exemple de Samson. Malheureusement, l'exemple qu'il nous laisse, c'est l'exemple d'un croyant qui a connu des sommets avec Dieu, il a connu la plénitude du Saint-Esprit, qui n'a pas veillé sur sa voie, qui a aimé le péché. Il est devenu esclave du péché et il a plongé spirituellement à cause de son laxisme sur le plan moral. En entretenant un péché secret, les convoitises personnelles qu'il n'a jamais confessées, qu'il n'a jamais été délivré, il n'a jamais triomphé de cela, eh bien, ça a été un poison dans sa vie qui l'a infecté jusqu'à la fin. Il était déjà dans une prison spirituelle, il s'est retrouvé dans une prison physique. Et à la fin de sa vie, les cheveux de Samson ont repoussé. Il a eu le temps de se repentir, de demander pardon à Dieu. Sa force lui est revenue. Et il a été conduit dans le temple de Dagon où il y avait une fête avec plusieurs milliers de Philistins qui étaient rassemblés. Ils ont voulu amener Samson pour s'amuser de lui. Et il a demandé à la personne qui l'avait mené de mettre ses deux mains sur les deux colonnes du temple. Et il a eu cette force, cette dernière force que Dieu lui a donnée, de pousser les colonnes, et le temple s'est effondré sur tous ses ennemis du peuple de Dieu. À ce moment-là, il est dit que dans sa mort, il y a eu plus de Philistins qui sont morts que pendant sa vie. Mais la trace que laisse Samson encore aujourd'hui, c'est celle d'un croyant qui n'a pas veillé, qui s'est endormi, qui a laissé un péché dominer sur sa vie et qui s'est égaré. Donc nous devons en tirer des leçons pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Je prends un deuxième exemple qui est celui des disciples. Les disciples auprès du Seigneur, les disciples étaient rassemblés auprès de Jésus pour la dernière Pâque. Et Jésus s'est rendu avec eux au jardin de Gethsémané. Gethsémané signifie « pressoir à huile ». C'est là qu'il y a eu le combat spirituel contre l'ennemi, contre l'adversaire qui voulait empêcher Jésus d'aller jusqu'à la croix. C'est un lieu de combat et Jésus savait cela, il savait que c'était son grand combat et il s'est entouré de trois disciples qui s'appelaient Pierre, Jacques et Jean. Il a dit « Venez vous trois avec moi, on va prier à l'écart ». Et pendant qu'il était là, il priait dans ce grand combat. Les disciples savaient que c'était un combat, mais ils se sont endormis. C'est dans Matthieu 26. Alors, Matthieu 26, 39. Voilà ce que Jésus prie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il est question ici de la croix, mais Jésus est venu pour donner sa vie pour le monde entier. Mais il y a ce combat spirituel. Le diable fait tout pour l'arrêter. Toutefois, Jésus poursuit. « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est-à-dire que Jésus a toujours soumis sa volonté à celle de Dieu, même s'il y avait des combats. Job 23, 12 dit ceci, « Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Et ça, c'est pour nous un modèle que nous devons faire plier notre volonté à la volonté de Dieu. En définitive, c'est toujours la volonté de Dieu qui prime. Que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est ainsi que Jésus va prier. Mais les disciples se sont endormis. Matthieu 26, 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Là, on est vraiment dans le moment décisif où Jésus prie en agonie à Gethsémané. Donc, sa sueur va se transformer en grumeaux de sang. Il a besoin d'être entouré. Et au moment de la prière, en fait, au moment de la grande épreuve, les disciples se sont endormis. L'esprit est bien disposé, c'est-à-dire ils voulaient prier, mais le sommeil a gagné leur cœur. La chair s'opposera toujours à la prière, frères et sœurs. L'esprit est bien disposé. Vous avez le désir de prier, vous voulez mettre un temps à part. Mais la chair, elle ne veut pas que vous priez. La chair est opposée à la prière. Et on peut dire que chez les disciples, à ce moment-là, c'est la chair qui a pris le dessus sur l'esprit. Même s'ils voulaient prier, ils n'ont pas réussi à prier. Donc la chair, pour nous, c'est un des trois grands ennemis. Les trois grands ennemis du chrétien, c'est d'abord un, le diable, notre ennemi numéro un. Deuxième ennemi, c'est le monde et ses plaisirs, ses tentations. Troisième ennemi, c'est nous-mêmes, la chair. La chair, c'est un ennemi qui nous éloigne de Dieu. Et que dit Paul, qu'est-ce qu'on doit faire de cette chair qui est là, que nous avons? Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Remarquez bien que si vous êtes à Jésus-Christ, c'est le passage obligé. Si vous êtes en Christ, vous devez crucifier la chair. Qui est-ce qui doit crucifier la chair? Est-ce que c'est Dieu qui doit le faire ou est-ce que c'est nous qui devons le faire? Mais c'est nous qui devons le faire. Dieu nous demande de le faire. Donc c'est à chacun de crucifier sa propre chair, de renoncer à soi-même, d'accepter la volonté de Dieu et de lui obéir. Si on ne le fait pas, en fait, la chair va grandir. Naturellement, elle va s'étendre. Elle va dominer sur notre vie et ça va être une entrave. C'est la raison pour laquelle très peu de chrétiens prient finalement. Ils savent qu'il faut prier, c'est bien de prier, mais ils ne le font pas parce que la chair a le dessus. Et tant qu'elle n'est pas crucifiée, eh bien, vous n'arriverez pas jusqu'à la prière et vous vous endormirez au temps de la prière, comme les disciples, car la chair est toujours là avec ses passions. Et en fait, pour développer une vie de prière, il n'y a pas d'autre solution que de crucifier la chair. Tant que la chair domine, la prière sera très faible. Mais quand la chair est crucifiée, alors ça libère l'esprit pour la prière. Et ça, c'est notre part et c'est notre défi. C'était le défi des disciples. Alors qu'allons-nous faire au temps de la prière, au moment de passer du temps avec Dieu? Est-ce que vous laissez la chair dominer? Est-ce que vous laissez l'esprit vous conduire? Ce sera le défi. Jésus va prier une deuxième fois. Les disciples se sont à nouveau endormis. Leurs yeux s'étaient appesantis. Le combat est puissant. Mais regardez 2 Corinthiens 10, 4. Oui, si le combat est puissant, Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous n'allons pas combattre contre la chair et le sang. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc nous avons le secours de Dieu dans notre combat et les murailles de Jéricho, les murailles d'incrédulité, les murailles de l'ennemi vont s'effondrer par la puissance de Dieu parce que les armes sont spirituelles. Alors un chrétien qui sommeille, c'est un chrétien qui a laissé la chair dominer et il ne va pas être opérationnel dans la prière, il va être faible. L'ennemi va s'infiltrer dans sa vie, l'ennemi va s'infiltrer dans son foyer, dans sa maison, dans sa famille. Il va créer le désordre. Pourquoi ? Parce que la chair a dominé et ainsi l'ennemi en a profité pour s'installer. Alors on peut réagir et de dire, je vais crucifier la chair et je vais reprendre ma place dans la prière, déjà la prière personnelle. Parce que si vous n'arrivez pas à prier chaque jour, c'est que déjà la chair a pris le dessus. La prière en couple, si vous êtes marié, priez avec votre conjoint. La prière en famille, priez avec vos enfants, c'est-à-dire rassemblez vos enfants et ayez un temps, ne serait-ce que de lire quelques versets de la parole de Dieu, une prière, et on bénit notre famille. Prions à l'église, que ce soit les réunions du mardi soir, que ce soit le dimanche matin, que ce soit les jeûnes et prières du samedi, que ce soit les réunions de maison, il y a toujours des occasions de prier dans des réunions avec des frères et sœurs. Prenons notre place et élevons la voix. Il y a un bon moyen de crucifier la chair, frères et sœurs, c'est quand vous élevez la voix, vous crucifiez la chair, vous faites taire la chair. Quand vous n'osez pas élever la voix, en fait, il y a toujours cette crainte qui est là, mais il faut la faire taire. La crainte, il faut la chasser. L'amour parfait bannit la crainte. Et un bon moyen de faire taire cette crainte-là, c'est d'élever la voix et de dire ne serait-ce que quelques mots. Vous voyez, pas besoin d'être très long dans la prière, mais quelques mots, c'est déjà des victoires qui sont remportées. Et déjà, la chair est tenue en échec. Troisième exemple, c'est celui de Tychus. Là, on est dans le troisième voyage missionnaire de Paul, qui va se retrouver à Troas, donc en Asie mineure. Et le premier jour de la semaine, alors le premier jour de la semaine à l'époque, c'était le dimanche. Le dimanche qui était un peu l'équivalent du lundi pour nous aujourd'hui, c'était un jour de travail pour les gens. Et donc, ils faisaient le culte le dimanche soir, puisque la journée était travaillée, on se réunissait le soir. Le culte avait lieu dans les maisons, et Paul enseigna jusqu'à minuit, Actes chapitre 20, verset 9. Et voilà un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Il s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage, et quand on voulut le relever, il était mort. Voilà un croyant qui est mort par son sommeil. Pourquoi Eutychus est assis au bord de la fenêtre? Ça, c'est une question qu'on peut se poser, parce que c'est quand même pas un endroit très sécurisé. Quand vous êtes assis au bord de la fenêtre, surtout au troisième étage, déjà vous prenez un petit risque. Mais en plus, avec la fatigue, il commence à s'assoupir, il n'a même pas eu l'idée de descendre, il s'est endormi directement sur la fenêtre. C'est très grave. Donc Eutychus était entre deux chaises, il avait un petit peu une oreille vers l'extérieur, le monde et ses discours, il avait une oreille dans l'intérieur, mais finalement le sommeil l'a gagné et il a plongé. Quand on est entre deux chaises, on n'est pas vraiment dans les voies du Seigneur. On est toujours en risque. Il était bien présent de corps, mais son esprit vagabondait. Peut-être ses pensées étaient ailleurs, il s'est endormi, il a pensé à autre chose, alors que c'était le temps d'écouter la parole de Dieu. Et là, nous devons veiller à nos pensées pour les recentrer sur les choses de Dieu, les choses spirituelles, et ne pas partir dans des voyages dans notre tête. Et donc, il n'a pas vu venir le sommeil qui est tombé sur lui. S'il l'avait vu venir, il serait descendu. Il ne l'a pas vu venir, et c'est ça aussi un des problèmes du sommeil, frères et sœurs. C'est que le sommeil, nous ne le voyons pas venir. Nous sommes là, et puis, tranquillement, nous nous endormons. On ne le voit même pas venir. Alors, ça va être fatal. Le sommeil va gagner son corps, mais son sommeil spirituel est là. Ça va le faire plonger vers le bas, c'est-à-dire que le sommeil spirituel, s'il vous atteint, il va vous enfoncer, vous, et va vous entraîner avec votre conjoint, votre famille. Tout va plonger à cause de ce sommeil. Alors, il n'a pas eu le temps de réagir, parce qu'on ne l'a pas vu, il n'a pas senti le sommeil arriver. Les autres chrétiens n'ont même pas vu qu'il s'endormait. Sinon, il y a bien un chrétien qui l'aurait réveillé, il lui dit « Attention, Eutychus, tu vas tomber, tu t'endors. » Personne ne l'a vu. Donc, il est tombé, c'était trop tard. Et aussitôt, ils sont descendus, bien sûr, pour voir ce qu'il en était, mais ils ont trouvé qu'il était mort. Paul ne s'est pas laissé arrêter par ce drame. On était en plein dans un culte, c'est quand même terrible. Vous êtes dans un culte, vous écoutez la parole de Dieu, puis il y a quelqu'un qui meurt comme ça. Mais Paul a pris Eutychus dans ses bras, et ça nous parle de l'affection fraternelle, ça nous parle de l'amour fraternel, de nous soutenir les uns les autres, de nous entraider. Il a prié pour le jeune homme, et acte 16, verset 10, nous dit « Son âme était en lui ». Donc, il est revenu à la vie par la prière de l'Église. Le jeune homme est remonté dans la chambre où ils faisaient leur culte, et c'est certain qu'il n'est pas retourné s'asseoir au bord de la fenêtre parce qu'il savait que c'était dangereux, mais il a compris la leçon que le sommeil, ça conduit à la mort. Il sait que le sommeil, c'est grave. Maintenant, il va rester éveillé, et s'il voit quelqu'un qui tombe dans le sommeil, il va le réveiller parce qu'il sait qu'il y a un danger derrière. Et ça nous parle de nous qui sommes vigilants à veiller les uns sur les autres et à nous tenir ensemble, bien éveillés, parce qu'on sait que le sommeil spirituel, ça va conduire à la mort spirituelle et on ne veut pas que nos frères et sœurs tombent là-dedans. Je termine avec Jonas, qui est aussi un croyant qui a plongé un jour dans le sommeil. Jonas, qui était serviteur de Dieu quand même, c'était un prophète, et Dieu lui a donné un ordre assez simple d'aller à Ninive pour prêcher la parole de Dieu à ce peuple. Mais Ninive, c'était des ennemis du peuple de Dieu et Jonas ne voulait pas aller annoncer la grâce de Dieu, l'amour de Dieu à ce peuple. Jonas était un juif assez centré sur lui-même. Il voulait que Dieu s'occupe que de son peuple. Donc, il avait le devoir d'obéir, mais il n'a pas envie à cause des ennemis du peuple d'Israël. Alors il va s'enfuir à Tarsis, vers Tarsis, au sud de l'Espagne. Et comme il décide de désobéir à Dieu, en fait, tout fonctionne bien. Et c'est là où on voit que le diable, même quand on décide de désobéir, il ouvre les portes. Il va favoriser pour qu'il ait le bateau. Il va avoir le billet, il va pouvoir payer le prix. C'est très cher. Il va faire ce grand, grand voyage, parce que c'était 4 fois plus loin d'aller là-bas que ce que Dieu lui demandait. Il va donc faire des dépenses incroyables pour désobéir à Dieu. Donc, ce n'est pas parce que les choses s'ouvrent que c'est forcément Dieu qui les met en place. En tout cas, dans le cas de Jonas, Dieu veut plutôt l'arrêter, mais lui, il a trouvé les portes ouvertes. Alors, il fonce. Il fonce dans son bateau, à l'opposé de la volonté de Dieu. Mais quand on désobéit à Dieu et qu'on est chrétien, un jour ou l'autre, les choses tournent mal. Et Dieu a poursuivi son prophète pour le ramener dans la bonne direction. Il y a une tempête qui est survenue. Alors on pourrait dire, ah mais la tempête, c'est l'ennemi qui nous veut du mal. Mais là, en l'occurrence, la tempête, elle venait de Dieu. Et les épreuves parfois qui nous arrivent peuvent être permises par Dieu pour nous ramener dans une direction qu'on n'a pas voulu prendre. Dieu est capable de tout utiliser pour nous ramener là où il veut. Et il l'a fait pour Jonas. Dieu a suscité cette tempête dans Jonas chapitre 1, verset 5, Il a compassion de Jonas, il veut l'amener au bon endroit. Jonas 1.5, les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Voilà la réalité de Jonas. Il va s'endormir profondément. Voilà un croyant qui s'endort profondément au moment où il y a besoin de prière. Il y a besoin d'intervention de la parole de Dieu, de témoigner. Jonas descend au fond du bateau. On sent bien que spirituellement, il est au fond, il est plus bas. Il touche le fond. Et c'est ainsi, dans sa désobéissance, qu'il va se retrouver sans issue. Alors que c'est le temps d'annoncer la parole de Dieu, eh bien, il va s'endormir. Romains 13, 11 dit ceci. « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Pourquoi faire ? Pour témoigner, pour parler du Seigneur, pour annoncer le message de grâce. Ne serait-ce que votre témoignage, c'est quelque chose de puissant qui peut toucher une vie. Et c'est ça que Paul dit, il faut briller, il faut témoigner, il ne faut pas nous endormir et laisser le sommeil nous éloigner de Dieu. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur, quel que soit notre don, nos capacités. Jonas, lui, c'était un prophète, donc son don, c'était d'annoncer la parole de Dieu, les prophéties que Dieu lui donnait. Et nous sommes tous appelés à un service différent, parce que chacun a reçu un don et des capacités différentes. Mais si vous ne le mettez pas en œuvre, si vous ne faites pas ce que Dieu vous a demandé de faire, vous désobéissez au Seigneur. Il y a un verset qui dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est un ordre du Seigneur, ça. Et si vous ne le faites pas, c'est donc que vous désobéissez au Seigneur. C'est donc que le sommeil a dominé dans votre vie. Dieu ne forcera personne à servir. Mais on pourrait dire ce matin, c'est la responsabilité de chacun et c'est la volonté de Dieu que nous soyons des serviteurs et des servantes pour le Seigneur. Alors tout le monde peut faire quelque chose. Il n'y a pas de grand service ou de petit service. Tout est utile dans l'œuvre de Dieu. Et plus on est conscient que la charge repose sur les épaules de chacun, eh bien plus ça sera léger pour tout le monde. Mais si on laisse une poignée s'occuper des charges, eh bien, ça va être une charge très lourde pour ceux qui se lèvent. Donc, saisissons les opportunités, mettons notre petite pierre à l'édifice, même un petit service, une action pour la maison de Dieu. Il y a un verset dans Ecclésiaste 9, 10 qui dit ceci, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire. » Il y a bien quelque chose que vous pouvez faire, que nous pouvons faire, que chacun peut faire pour l'œuvre de Dieu, même une petite tâche, un petit service, eh bien cela, c'est des grands services pour l'œuvre de Dieu. Jonas, lui, n'a pas veillé. On peut dire qu'il s'est endormi au moment où il devait annoncer le message de la parole de Dieu. Il n'était pas à son poste. Or, Dieu cherche, c'est dans Ézéchiel 22, « Et je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Il ne faut pas être dans le sommeil au moment où Dieu cherche des hommes, des femmes qui sont à leur poste, qui sont là pour prier, pour intercéder, pour le combat, pour servir, pour être dans l'œuvre de Dieu. Du coup, Jonas a été jeté par-dessus bord. Dieu a eu pitié de son serviteur. Il a envoyé un poisson qu'il a avalé, Jonas, et qu'il a rejeté sur la rive, exactement là d'où il venait, entre parenthèses. Il a dépensé tout cet argent dans ce voyage pour rien. Il n'est pas arrivé à destination qu'il voulait. Et puis Dieu l'a fait revenir au point de départ. Donc il aurait pu éviter tout ça s'il avait simplement obéi à la parole de Dieu qui était d'aller à Ninive. Dieu donc l'a ramené, il lui a rappelé sa mission. Jonas a fini par obéir et il est allé cette fois-ci avec la bénédiction de Dieu pour prêcher la parole de Dieu. À Ninive, il s'est réveillé, il est sorti de son sommeil et il a fait la volonté de Dieu. On va prier quelques instants et le sommeil spirituel, ben, nous devons tous veiller. Il s'installe sournoisement, je pense à Eutychus, hein, il ne l'a pas vu venir, c'est venu Tranquillement, il était là, mais peut-être petit à petit, il s'est assoupi, il ne l'a pas vu venir, et puis paf, il est mort spirituellement, tout d'un coup. Et il ne faudrait pas que ça arrive à nos frères, nos sœurs, à chacun de nous. Il faudrait qu'on soit vigilant pour qu'on soit éveillé à l'heure du combat. Soyons prêts. Soyons prêts, non pas comme Samson qui s'était endormi, mais soyons prêts pour réagir et combattre l'adversaire. À l'heure de la prière, ne soyons pas comme les disciples qui se sont endormis, mais passons du temps à chercher la face de Dieu. Ne soyons pas comme Eutychus qui s'est laissé entraîner dans le sommeil de la mort, mais soyons à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis, ne soyons pas désobéissants comme Jonas qui a préféré faire fuir la volonté de Dieu, mais plutôt soyons obéissants au Seigneur. Nous devons bien connaître les dangers du sommeil spirituel. C'est encore temps de réagir. Quand on voit les premiers symptômes, frères et sœurs, quand on sent qu'il y a un affaiblissement, ça veut dire que la chair est en train de remonter, ça veut dire que le sommeil est en train de gagner. Merci encore pour ta parole qui nous donne ces avertissements, ces conseils. Et nous voulons être vigilants. Nous voulons, Seigneur, nous réveiller, être attentifs à tes voies, à tes commandements. Merci de bénir mon frère, ma sœur, de nous tenir tous dans cet éveil spirituel, dans cette foi vivante, dans cette chair crucifiée, afin de ne pas laisser un accès à l'ennemi pour nous détourner du chemin, pour nous détourner de la marche, parce que nous voulons aller jusqu'au but, jusqu'au port désiré, jusqu'au paradis. Seigneur, où tu nous as préparé une place afin que nous soyons pour toujours avec toi. Bénis mon frère, ma sœur, que chacun soit vigilant, que chacun soit bien éveillé, que chacun soit fortifié par la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.